Une école pour la vie. L'émission de Radio Grand Ciel qui vous parle de l'actualité de l'enseignement catholique d'Eure-et-Loir, animée et réalisée par
Corinne Vivier,
Lucie Amiot
et Jean Bourriou, votre serviteur. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver. Au sommaire de notre émission, Corinne, aujourd'hui.
Eh bien, nous partirons avec des classes de terminale du lycée Saint-Pierre-Saint-Paul à Dreux, à Ciné-Centre, pour rencontrer un chef d'entreprise, Moad Altrad.
Et puis, on vous proposera aussi une nouvelle proposition de parcours de carême, commune à tout le diocèse.
Et on terminera, comme d'habitude, par un petit agenda.
Mardi matin 18 janvier, je vous propose de vous emmener au Ciné-Centre à Dreux avec des classes de terminale pour une rencontre très particulière. Je suis en compagnie de Monsieur Emmanuel Leclerc qui est professeur de philosophie. Bonjour Monsieur Leclerc.
Bonjour Madame.
Je vais d'abord vous laisser vous présenter.
Très brièvement, je suis le prof de philo du lycée Saint-Pierre-Saint-Paul, donc de Dreux. Je suis là, c'est ma deuxième année consécutive et j'ai la chance d'apprendre de mes élèves et de leur transmettre un savoir. Autrement dit, la philosophie est un dialogue, donc j'ai la chance de dialoguer avec eux toute l'année.
Alors ce matin, vous avez organisé une rencontre, je disais très particulière, mais plutôt extraordinaire. Est-ce que vous pouvez nous présenter la personnalité que vous avez fait venir à la rencontre de ces lycéens ?
Il est vrai que chaque année, j'essaie de faire, d'inviter une très grande personnalité du monde sociétal. Mais malheureusement, depuis 2 ans, je ne l'ai pas fait à cause de la pandémie. Et cette année, l'établissement a eu l'honneur de recevoir Moad Altrad, qui est un très grand entrepreneur français, voilà, un des milliardaires français. Qui est venu, qui vient à la rencontre des élèves pour leur parler des notions du travail, du bonheur, de la liberté et pour leur délivrer un message d'espérance à l'aube de ces quelques jours qui séparent de leur orientation, en tout cas de Parcoursup, dans lequel ils doivent mettre leur vœu.
Alors, si on pouvait donner quelques précisions rapidement sur la personnalité de Moad Altrad, comment vous pourriez le définir ?
Alors, Moad, on se connaît depuis quelques temps déjà. Je crois qu'il y a un adjectif que je pourrais, sur lequel on pourrait dire de lui, c'est que c'est un homme très, très humble. Il a une humilité remarquable, alors qu'il voilà, il brasse des milliers d'euros, il est complètement dans le monde toutes les semaines, il voyage énormément, mais il prend le temps de venir à la rencontre des jeunes, parce qu'un jour il me disait dans une discussion, peut-être dans un restaurant parisien, il me disait, tu sais, il y a quelque chose pour moi qui compte, c'est l'humain. Il dit, quand je suis devant une personne, je ne suis pas simplement devant une personne, je suis devant un cœur. Et je crois que c'est la plus belle définition qu'il a donnée de la personne, c'est-à-dire un cœur. Autrement dit, une rencontre, c'est un cœur à cœur. Et ce matin, il vient faire ce cœur à cœur avec les élèves. Donc pour qualifier, je dirais, une personne très très humble, très sage. Il a une sagesse en lui qui lui permet de faire comprendre que finalement, nous ne sommes que des instruments au service de l'humanité.
Au préalable de cette rencontre, je crois qu'il a offert un cadeau à tous les terminales.
En effet, il a offert un de ses livres, il a écrit de nombreux livres, et il a offert un de ses livres, Badawi, qui est une sorte d'autobiographie avec un peu de fiction, simplement pour préparer la rencontre, et afin à la fois de la préparer et puis de s'immerger dans son histoire. Parce que cette rencontre aussi, c'est deux histoires qui sont au carrefour, l'histoire des élèves et l'histoire de Moad. Et finalement, ce que nous venons, ce que nous vivons ce matin, c'est tout simplement cette histoire qui va faire partie de cette histoire de l'humanité.
Alors, je vais vous raconter un volet, si vous voulez bien, un côté personnel, mais c'est aussi un côté économique et social. Et après, on parlera de littérature et des questions liées à la littérature ou autres que vous avez à me poser ou à traiter, à vouloir traiter. Les débuts étaient difficiles. C'est une vie de nomade. Cette façon de vivre qui existe encore dans plein de pays dans le monde, eh bien, est toujours la même qu'il y a beaucoup de siècles en arrière. Donc, cet homme, le chef de la tribu, il a tous les droits. Dans la tribu, vous avez aussi des classes sociales. Il y a les gens qui sont aisés, qui ont le plus de bétail, des chameaux, des ânes, des chevaux, etc., des moutons. Et les autres, donc vous les reconnaissez, si vous avez l'habitude d'observer cette vie, eh bien on les voit selon leur façon d'être, de marcher, de regarder, de se comporter globalement. Eh bien, ma mère, donc la famille de ma mère, était parmi les gens les plus pauvres. Eh bien, le chef de la tribu a décidé qu'elle allait devenir sa femme. Alors, l'acte de mariage, c'est une démarche verbale, primitive. Et à l'époque, elle avait, je ne sais pas, 12, 13, 14 ans. Il y avait un premier enfant qu'il a décidé de garder avec lui, c'est donc mon frère aîné. Un an après, il a recommencé, il lui a fait un second enfant, et c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui. J'avais beaucoup de chance parce qu'il ne voulait pas de moi, il m'a renvoyé avec ma mère chez la grand-mère. Donc c'est comme ça que c'est parti. Cette femme n'a pas eu une vie, sa vie, je parle de ma mère, une quantité négligeable finalement. On l'a connu un homme qui l'a violée. Ensuite, il a tué le fils aîné de cette femme, c'est-à-dire mon frère aîné, et par maltraitance, etc. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de chance de n'être resté avec cet homme. Cet homme qui m'a toujours fait peur, je le voyais de loin, j'évitais sa compagnie. Ben voilà comment ça a commencé. Je vous dis ça, c'est pas pour attirer votre sympathie, mais c'est juste pour vous dire, on peut commencer vraiment très bas et réussir quand même. C'est que la réussite, ben c'est relative. Chacun peut définir sa réussite comme il le souhaite. Je n'ai pas su la maîtriser, ma vie, donc je n'ai pas su contrôler son évolution, sa construction. J'ai pas su. J'ai été toujours, et ça c'est lié à mon histoire avec la France, je vous la raconterai tout à l'heure, le premier jour dans ce pays, qui est le vôtre, qui est le mien, parce que je ne fais que travailler pour la France, participer à son économie, à son rayonnement, à sa littérature, mais mon histoire m'a fait comprendre à raison ou à tort, que je n'étais pas né ici, que je ne suis pas d'ici, que j'ai une autre culture, mais que je dois être d'ici, apprendre la culture de ce pays et travailler pour ce pays. C'est ce que je fais depuis que je suis là. Eh bien, voilà, vous avez déjà un portrait de quelqu'un qui est habité par deux personnages différents. Un oriental, avec ses convictions, sa culture, sa religion, et l'autre, occidental, donc français, même chose, sa culture, ses convictions. Ceci m'a amené à considérer que, n'étant pas ici, mais bénéficiant de toute cette culture française, qui est très riche, qui est très importante, je dois gagner ma place. Mais pour gagner ma place, il faut la payer. Pour la payer, je n'ai que mon travail. Le travail qui, au départ, n'existait pas. Mais la première étape, c'était l'apprentissage de la langue. La deuxième étape, c'était d'obtenir ses diplômes. À l'origine, j'ai commencé des études d'informaticien. Donc j'ai un doctorat d'informatique. Et là, vous allez me trouver écrivain en économie et en littérature. Vous allez me trouver industriel. Vous allez me trouver des côtés également politiques. Donc j'ai fait ce parcours, j'ai commencé ma société dans des débuts aussi difficiles pour fonder une petite entreprise qui a été construite sur les bases, sans rentrer dans les détails, d'une entreprise qui était en faillite, qui fabriquait des échafaudages. C'est un produit très simple à fabriquer, très simple à comprendre, mais très simple à vendre. Il fallait commencer quelque part. C'était le début de mon histoire de chef d'entreprise. C'est passé comment ? Un jour, un voisin vient me voir et me dit « Est-ce que tu veux acheter une entreprise en échafaudage, en faillite ?» Et c'était la première fois où j'entends le mot « échafaudage ». Je suis allé visiter cette entreprise. J'ai beaucoup aimé son organisation, la simplicité de la fabrication du produit. Ça commençait comme ça, alors que j'étais informaticien, donc aucune notion d'industrie ni de commerce. Je vous dis ça, c'est encore une fois, et j'aimerais que vous le reteniez, c'est pas pour me valoriser auprès de vous, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des événements qui se produiront dans votre vie, qui pourraient changer votre vie. C'est à vous, à un moment ou à un autre, de les saisir ou de ne pas les saisir. Ma vie, eh bien, aurait pu s'arrêter à plein d'endroits, mais c'est pas ma volonté. J'essaye d'être cette personne qui est animée par des choses positives, qui a envie de changer, je dis bien de changer la vie des gens. Le résultat de cette entreprise a été réinvesti en totalité dans cette entreprise pour qu'elle grandisse, qu'elle se consolide. Elle achète d'autres entreprises, donc faire de ce qu'on appelle la croissance externe, une entreprise, une autre et encore une autre. Jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'il y a 200 filiales dans le monde, avec 50 et quelques mille personnes. Il n'y a que le tiers de ceci en France, le reste c'est à l'international. Cette entreprise donc avait vocation de s'adresser à travers ses produits aux artisans, maçons, petites entreprises. Il fallait très vite, j'avais compris, mais là aussi, vous allez dire, mais comment vous avez fait des études de marketing, d'industrie, de commerce ? Ben non. Par l'observation de la vie de cette société, de son contexte économique, de ses concurrents, de ses produits nationaux et internationaux, tout le fait d'être originaire d'une autre civilisation, je crois que ça m'a servi de penser peut-être différemment. Penser différent, c'est une richesse. L'origine du groupe Altra. L'entreprise s'est diversifiée. Elle a grossi, elle a grandi. C'est la plus belle entreprise au monde dans son secteur, tout simplement. Pour faire ça, ben vous avez les ingrédients, le travail, la volonté de faire quelque chose, comme je vous l'ai dit, plus grand que soi-même, qui a une vocation d'exister après vous-même, quel que soit le produit, quel que soit le client. Ce sont des hommes et des femmes qui sont à l'origine des entreprises. Après, quels que soient les produits, ce sont les hommes qui fabriquent le produit. Ce sont les hommes qui le vendent, ce sont les hommes qui le livrent. Les salariés de l'entreprise doivent participer aux bénéfices de l'entreprise. Ça a été appliqué très peu. Mais moi, je l'ai exploité dans le bon sens pour que ça corresponde aux aspirations des salariés de mon entreprise partout dans le monde. Que des solutions pour qu'une partie des bénéfices de l'entreprise reviennent aux salariés de l'entreprise. Donc si vous avez fait ça, mais loyalement, honnêtement, mais de façon effective, c'est-à-dire c'est vrai ce que vous dites, mais vous le faites parce que vous le prouvez année après année à tout le monde, partout dans le monde. Vous allez réussir, quel que soit votre produit, quelle que soit sa qualité, quel que soit son prix, etc. Vous allez y arriver. Cette entreprise, à l'origine, avec un produit simple, une clientèle réduite, aujourd'hui, s'est diversifiée. Elle a grossi. C'est la plus grande entreprise au monde dans son secteur. Mais en tant qu'actionnaire, dirigeant, il faut que vous créiez d'autres conditions également. Par exemple, il faut que l'actionnariat soit stable. Parce que si vous vendez votre entreprise à quelqu'un d'autre, peut-être le discours que je vous profère là, eh bien, il va changer, parce que le propriétaire sera un autre, et puis il aura un autre discours, et puis du coup, vous allez tout casser. Vous pouvez vendre votre entreprise, mais il faudra que vous assuriez que la vie de l'entreprise va continuer comme vous l'avez raconté pendant des décennies à vos salariés. Sinon, la chose s'arrête, vous comprenez. C'est pour ça, dans mon actionnariat, j'ai pris des actionnaires stables, notamment l'État français. L'État français est actionnaire à hauteur de 11% chez Altra. Mais j'ai exigé au départ qu'ils ne peuvent plus sortir, sauf si j'ai envie qu'ils sortent. Et ça a été accepté. Ça vous donne une dimension autre, ça vous donne un rayonnement différent. Mais ça stabilise votre actionnariat et vous consolidez votre discours. L'autre chose, les hommes changent, les méthodes changent. Demain, les dirigeants du groupe Altra, ce sera peut-être quelqu'un de chez vous, quelques-uns dans cette salle ou dans d'autres, mais ce sera de nouvelles personnes avec une culture différente qui évolue, qui n'est pas forcément la mienne. Mais le tout, c'est que vous créez un contexte pour qu'il y ait une continuité dans l'évolution de votre management. Le législateur a défini ce qu'on appelle la personne physique et la personne morale. La personne morale, ce n'est pas tout à fait comme la personne physique. La personne physique, c'est vous et moi. On est une sorte d'année périssable, donc on va mourir. Il faut que l'entreprise puisse vivre après votre mort. Que vous soyez le créateur ou n'importe qui dans l'entreprise. Pourquoi? C'est une nécessité absolue parce que ça concerne 55 000 personnes. Donc il ne faut pas que la vie s'arrête après votre mort. La personne morale, c'est l'entreprise effectivement. Mais l'entreprise, il n'y a aucune raison qu'elle meure. Pourquoi? Parce qu'elle doit comporter dans sa constitution, dans sa construction, les ingrédients de son évolution, son adaptation, autrement dit son agilité par rapport à la vie de l'entreprise et son positionnement sur le marché mondial. Pour créer des grandes réalisations comme ça, il faut que vous ayez des valeurs. Qu'est-ce qu'une valeur? Valeur, c'est quelque chose que vous faites dont vous êtes fier. Mais on va décliner ces valeurs. Il faut, et c'est une absolue nécessité, de respecter les autres. Le respect, c'est votre élégance de l'âme à l'égard d'autres, des autres. Il faut que, comme deuxième valeur, l'humilité. L'humilité, c'est une obligation pour vous aussi, et bien, quel que soit votre interlocuteur. Le courage, c'est une autre valeur. Le courage, c'est continuer, servir, être plus grand, créer quelque chose de plus grand que soi-même, parce que vous voulez laisser un héritage. Et une autre valeur qui s'appelle la différence culturelle. Mais vous n'avez pas la même culture qu'un Chinois, par exemple, vous voyez. Mais c'est vraiment différent. Vous devez, si vous voulez faire des affaires, il faut absolument comprendre cette différence culturelle et la considérer comme une source de progrès. Parce que c'est un éclairage différent, c'est quelqu'un qui réfléchit différent.
Cher Moed, malheureusement, le temps est compté, vous allez rentrer, vous allez repartir dans vos activités. Permettez-moi, au nom de l'établissement, au nom de tous les élèves, de vous remercier pour à la fois être la source d'inspiration de beaucoup d'entre nous et aussi avoir été la force de tous nos élèves qui croient en vous. Voilà, qui croient en vous. Nous avions beaucoup discuté de votre livre dans les cours. Et permettez-moi, nous sommes en début d'année et je voudrais pour cela citer Marc Aurèle, grand philosophe Marc Aurèle, qui souligne que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un et l'autre. Cher Moed, vous avez à la fois la force, vous avez le courage, vous avez la sagesse. J'ai beaucoup de plaisir à partager avec vous et bon courage pour la suite et je reste optimiste pour vous.
Merci beaucoup.
On vient d'entendre la conférence. Oui. de monsieur Moed Altran.
Que vous pouviez me donner un peu comme ça spontanément votre impression.
Oui, c'est vrai que on a eu la chance de pouvoir lire son livre et dès le départ, voilà, on voit un homme extrêmement inspirant et ça s'est largement confirmé pendant cette rencontre. Voilà, il a donné des vraies leçons de vie, ne jamais abandonner et savoir rebondir et avoir le courage de faire face aux difficultés parce qu'il en a eu un nombre incalculable de fois et c'est vraiment une énorme leçon de vie de voir que finalement, même si la vie n'est pas forcément clémente avec nous, on peut réussir et faire de grandes choses.
Bonjour, je suis Christophe Tartibu, élève en Terminale 4 à Saint-Pierre-Saint-Paul. Pour moi, ça a été vraiment intéressant de rencontrer cet homme qui nous a montré une grande force qu'il a eue pour pouvoir continuer malgré les difficultés. Et ça m'a donné encore plus de motivation pour, dans ma vie, continuer malgré les difficultés qui puissent se présenter à moi.
Dans votre main, vous avez le livre de monsieur Altran. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner le titre de son livre ? Alors,
Badawi.
D'accord. Et c'est un livre qu'il vous a offert, je crois ?
Oui.
Donc, après cette rencontre et cette conférence, est-ce que vous êtes allé faire signer ce livre ? Pour vous, ça représente quoi ? Qu'est-ce que vous avez envie de garder de cette conférence et de cette rencontre, surtout ?
Tout d'abord, cette conférence, c'est vraiment un honneur pour nous et une chance. C'est vraiment quelque chose, d'assez irréaliste. On a du mal à se dire que M. Altran était là et qu'il est venu pour nous. Et c'est vraiment un véritable enrichissement pour nous parce qu'il nous a partagé son expérience, on a pu apprendre beaucoup de choses qu'on n'a pas forcément la possibilité d'apprendre assis en salle de classe avec nos professeurs. C'est quelque chose qui sort vraiment du programme vraiment académique. C'est son expérience, son vécu, c'est quelque part des paroles de sagesse parce que tout le monde a un vécu différent. Donc on apprend des expériences de sa vie qu'on ne vivra sûrement pas. Donc, c'est enrichissant.
Merci. Monsieur Leclerc, après cette matinée, quelques impressions. Qu'est-ce que vous avez envie, vous, en tant que professeur de philo, qu'est-ce que vous avez envie de retenir de la matinée ?
Il y a deux choses que je retiendrai. Une posture et une définition. Une posture, j'ai été très, très touché de son regard. Il ne voit pas, il regarde. Il regarde chacun des élèves. Et je l'observais durant cette matinée. Il a capté l'attention de nos élèves parce qu'il les a regardés. Autrement dit, s'il les a regardés, c'est qu'il les a considérés comme des personnes. Il les a respectés. D'où mon deuxième point, c'est cette définition du respect qu'il a donné, puisqu'il soulignait que le respect, c'est l'élégance de l'âme. Personnellement, c'est la première fois que j'écoute une définition aussi belle du respect. Et je suis intimement convaincu que ce respect a été réciproque. Les élèves ont beaucoup respecté parce qu'il les a respectés.
Monsieur Leclerc, merci beaucoup pour cette initiative magnifique. Vous êtes professeur de philo, mais vous avez aussi d'autres cordes à votre arc. En tout cas, est-ce que vous pouvez nous dire, lorsque vous n'êtes pas professeur de philo, quelles sont vos autres activités ?
Alors vous savez, il y a une chose qui m'anime, c'est l'humain. Je suis un amoureux de l'humain et donc je dirais j'ai 3-4 activités. La première, c'est des conférences. Quand je ne suis pas en cours, je donne beaucoup de conférences à travers la France et le monde entier aussi, à la rencontre de l'humain. Et ma seconde activité, c'est que j'ai fondé il y a 4 ans un cercle de pensée Devenir pour Agir, que vous trouvez sur les réseaux sociaux, devenirpouragir.com, le site internet, sur lequel en fait c'est un cercle de pensée qui a pour objectif la connaissance de l'humain. Et toutes les semaines, j'interviewe de très grandes personnalités qui ont des responsabilités qui sont inspirantes pour pouvoir proposer aux jeunes des exemples, qui sont partis de rien pour arriver finalement à devenir qui ils sont. La troisième activité, c'est ce que j'appelle la minute philo. La minute philo, c'est tous les dimanches soirs sur les réseaux sociaux. Je prends un thème d'actualité que je résume de manière philosophique avec l'étymologie, etc., en une minute quinze, parce que mon objectif, c'est de démocratiser la philo. Et on a besoin de penser, de réfléchir, donc j'essaie d'être au service de toutes celles et ceux qui veulent penser, qui veulent réfléchir. Enfin, ma quatrième activité, c'est d'écrire, puisque je viens d'écrire mon 9e livre, qui est une autobiographie que je n'ai jamais voulu écrire. Et bon, mon éditeur est revenu 3 fois à la charge, me demandait d'écrire. et j'ai accepté de l'écrire au service de la jeunesse.
Eh bien, peut-être que nous nous retrouverons pour que vous nous parliez de cette autobiographie et donc de votre parcours. En tout cas, merci beaucoup.
Merci à vous.
Maintenant, nous sommes avec Lucie pour une proposition de la direction diocésaine. Alors, nous sommes rentrés dans le carême et vous proposez une démarche aux écoles, proposée aux écoles sur le thème de Charles Foucault. Pourquoi Charles de Foucault ?
Bonjour Jean, merci beaucoup de me poser cette question. Et effectivement, cette année, avec la petite équipe, on a pensé faire découvrir la personnalité de Charles de Foucault parce qu'il va être canonisé bientôt par le pape François à Rome le 15 mai prochain. Et pour beaucoup d'entre nos élèves, eh bien Charles de Foucault est une grande figure de sainteté. Il a beaucoup contribué à leur éveil spirituel, notamment grâce à son chant « Mon père, je m'abandonne à toi ».
D'accord. Alors, quelle est la démarche concrète que vous avez proposée aux écoliers ?
Alors, les écoliers et les collégiens sont invités, durant les 5 semaines avant les vacances, de vivre à la découverte de Charles de Foucault et de découvrir un trait de son caractère. Et par semaine, on les invite donc à découvrir un trait particulier de son caractère et pourquoi pas de s'en imprégner, de l'imiter et d'en tirer une leçon de vie. Et à travers cette démarche, on invite chacun, donc chaque classe ou chaque élève, à pouvoir mettre par écrit ce qu'il a retenu de ce trait de caractère et ce qui l'a engagé aussi, lui, dans cette démarche, sur une petite banderole de couleurs. Et pour chaque semaine, il y aura une couleur différente. L'idée est d'assembler toutes ces petites bandelettes les unes aux autres pour en former une grande guirlande. C'est une manière de manifester la fraternité et tous les liens qui unissent les élèves entre eux. On sait que la période de Covid a été très compliquée, que les classes ne sont pas beaucoup mélangées ni beaucoup fréquentées. Alors, on leur propose cette démarche un peu symbolique pour signifier comment est-ce que les classes peuvent être reliées entre elles par cette démarche commune. Le fait de faire les choses ensemble au même moment et de pouvoir ensuite les partager tous ensemble lors d'une célébration pour célébrer la joie de Pâques.
L'actualité aujourd'hui est un peu plus difficile, c'est l'Ukraine. Je crois aussi que vous souhaitez proposer quelque chose aux établissements.
Oui, effectivement, les temps que nous vivons aujourd'hui sont un peu particuliers. Nos jeunes sont à peine sortis de la crise du Covid, qu'ils sont confrontés à une nouvelle crise qui peut susciter de l'angoisse et de la peur. Quoi de mieux que la prière pour soutenir les personnes qui sont en souffrance. Voilà, donc on invite dans les écoles à prier pour la paix.
Très bien. On se retrouve tout de suite pour un agenda. Alors, on retrouve Lucie pour notre petit agenda.
Oui, alors à l'école Sainte-Marie à Courville, c'est les portes ouvertes qui se dérouleront le samedi 19 mars de 10h à 12h30.
Et puis, cette information que les séances d'expression théâtrale se poursuivront à la rentrée prochaine pour les de la petite section au CM2.
Au collège d'Elfeuille, maintenant à Nogent-le-Rotrou, semaine du 14 mars, c'est la semaine des mathématiques à l'école et au collège.
Et puis le vendredi 18 mars aura lieu la fête de Saint-Joseph avec la venue de Patrick Richard et une grande journée banalisée avec des ateliers pour l'école et le collège.
Et pour prolonger, eh bien, Patrick Richard est invité dans la paroisse le samedi soir, 19 mars.
Le 21 mars, les élèves, dans le cadre du parcours culturel, iront à Orléans pour aller voir West Side Story. Ce sera tous les élèves de 4e.
Les portes ouvertes, samedi 26 mars, de 10h à 13h, vous êtes les bienvenus.
Et puis, au collège Sainte-Cécile à Châteaudun, à l'école, pardon, Sainte-Cécile à Châteaudun, eh bien, il y aura des portes ouvertes. Pendant la classe, et ce sera le vendredi 25 mars après-midi, Occasion de venir voir travailler les élèves et de rencontrer les enseignants dans différentes classes, de la maternelle au CM2. Et puis à partir de 16h30, possibilité aussi de rencontrer les enseignants. Voilà.
Eh bien, nous avons été contents de passer ce moment avec vous. On se retrouve dans 4 semaines. Bye bye.